Chapitre 6. J'ai saisi cette nuit l'idée d'André dans toute son ampleur, car au lieu de dormir, je réfléchissais. Il considère évidemment qu'il doit essayer de former un pauvre insecte, ou du moins, car il ne va pas jusqu'à la pensée de formation intellectuelle, de lui apprendre à bien poser ses pattes et à tirer le meilleur parti possible de sa chétivité. En un mot, il a un devoir à remplir. Or, comme il est jeune, au moins autant que moi, comme il n'a pas plus d'expérience que ma pantoufle, il dépasse le but. Des tirades généreuses sur l'humanité ont éclairé mon cousin d'un jour nouveau, mais je me demande pourquoi les jeunes filles ne rentrent pas, à ses yeux, dans l'humanité. Peut-être ressemble-t-il à ces gens qui, passant par-dessus leurs obligations immédiates et très petites, se lancent dans une grande entreprise. Un peu de sympathie pour moi serait le devoir très petit d'André, mais sa chimérique entreprise d'éducateur flatte son amour du vase et remplit ses yeux de poussière aveuglante. Je travaillerai à changer ses idées. Ce n'est pas lui qui fera mon éducation morale. C'est moi qui l'amènerai à comprendre la femme, moi qui lui prouverai que cette créature infortunée a des idées personnelles, ce qu'il nie. Les femmes ont des goûts qu'il ne faut pas contrarier, a-t-il déclaré aujourd'hui même, car nous devons les rendre heureuses. Mais des idées, je nie qu'elles puissent en avoir de personnelles, ce sont toujours celles de nôtres. Comme c'est flatteur! Je n'ai rien répondu, c'est peu à peu que je lui ferai toucher l'inanité de ses propres conceptions. Jusqu'ici, les circonstances m'ont permis, plus d'une fois, d'affirmer mes goûts. Les chalets se sont peuplés et ma tante, qui connaît tout le monde, est le centre de réunion plus ou moins agréable. André a paru immensément satisfait des occasions qui se présentaient pour moi d'aller au tennis et au pique-nique qu'on organise. Mais je ne suis pas mondaine, les pique-niques me déplaisent et les mouvements désordonnés du tennis me font horreur. Rien n'égale, à mes yeux, le plaisir de dessiner ou de lire tranquillement. Mes antipathies sont une déception pour André, probablement parce que, dans sa pensée, l'époux désiré pour sa pupille se rencontrerait peut-être en déjeunant sous des arbres ou dans des grottes, pendant qu'une foule de petites bêtes assaisonne agréablement le repas. Cette façon poétique de marcher vers l'hyménée est en dehors de mes goûts et de mes idées. Nous avons eu à ce sujet une discussion qui a tourné à ma gloire, ma tante m'ayant soutenue, et de pique-nique, il n'est plus question. En revanche, l'été, qui réunissent dans le salon de Madame d'Arlancé les manoirs et les chalets, ont mis l'avantage, dont le moindre est de conserver le bon ton, qui, à mon sens, doit présider aux relations humaines. Je dois dire que, dans ces réunions, mon cousin est charmant. Perdant de vue le spectre de sa tutelle, il est maître de maison accompli. Bon causeur, il s'abandonne à ce caractère enjoué qui devient d'un sombre à la Philippe II dans ses rapports avec moi. Je suis heureuse que le petit événement d'aujourd'hui m'ait permis de préciser certaines de mes idées. « Jacqueline, m'a dit ce soir ma tante, veux-tu venir jusqu'au phare? André nous y attend. » Mais, au moment de mettre le pied sur la jetée, longue de près d'un kilomètre, ma tante, qui ne s'est jamais aventurée plus loin, a déclaré que, devant le danger d'être enlevée par une lame, elle ne pouvait continuer. « Il n'y a aucune vague, la mer n'a pas une ride, » répondis-je. « Mon enfant, si tu as le courage d'aller jusqu'au bout, je ne m'y oppose pas. Pour moi, je ne puis pas vaincre ma répugnance à m'aventurer sur cette jetée. » On ne sait jamais, avec la mer, ce qui peut arriver. Elle se met à bouillonner sans qu'on sache pourquoi. Tu diras à André de me rejoindre ici. Madame d'Arlancé trouve que la mer est séduisante quand on la contemple d'une chambre bien close ou assise à bonne distance sur une élévation. À défaut d'élévation, je la laissais sur un banc et m'avançais vers l'extrémité de la jetée. Mais je m'arrêtai longuement devant la beauté incomparable de la soirée et, remarquant l'homme qui allume le phare, je le plaignais d'être certainement incapable d'apprécier le spectacle qui me ravissait. La lumière du soleil, disparue à l'horizon, se reflétait en éclats lumineux sur la mer pendant que le fond du trait et les côtes s'effaçaient dans une demi-teinte exquise. La beauté de la lumière graduée était vraiment infinie. J'en remplissais mes yeux et soupirais en songeant à l'impuissance de mon pinceau pour reproduire de telles merveilles. « C'est magnifique, n'est-ce pas, mademoiselle ?» dit une voix rude auprès de moi. Je me détournai et reconnus l'allumeur des feux auxquels je n'avais jamais parlé, mais qui, plus d'une fois, m'avait rencontré sur la jetée. Fort étonné de sa réflexion, en contradiction avec la pensée que, précédemment, j'avais eue sur son incapacité à comprendre les beautés qui m'enthousiasmaient, je répondis « Aucun mot ne peut exprimer combien c'est beau. Nous avons très souvent de ces couchers de soleil. Vous les admirez? Vous aimez la mer? Si je l'aime, oui, et n'importe par quel temps. C'est un spectacle qui élève l'âme vers le Créateur. » Sans répondre, je regardais plus attentivement son visage bronzé. « Toujours quand je viens ici, je pense à celui qui nous a donné des choses si belles, et ma pensée monte, ajouta-t-il en se parlant à lui-même. » Comme j'étais loin de ce simple. Un instant auparavant, je le croyais réfractaire aux sentiments de la nature qu'il entraînait cependant dans une sphère supérieure à la mienne. Il vit mon étonnement et reprit « Je ne dirai pas tout cela devant des libres penseurs, ils ne me comprendraient pas. Mais vous, mademoiselle, il n'y a qu'à vous regarder pour savoir que vous comprendrez. Je me suis permis de vous parler parce que je connais bien monsieur l'ingénieur. » Ah ! C'est un homme qui a l'estime de tout le monde. Depuis qu'il est ici, il a fait bien plus de bien que bon nombre de gens qui habitent le pays depuis toujours. Sa mère aussi est une brave femme. C'est du bon monde, enfin. » Un pareil éloge venant de ce brave homme, écho de ses semblables, me flatta infiniment. Je le fis causer en lui affirmant ce qui était vrai, que je le comprenais, et il ne dissimula pas ses sentiments pour les esprits de bas étage qui, au croisic comme partout, s'efforcent de modifier par leurs journaux, leurs mensonges et leurs moqueries la mentalité d'une foule de braves gens. « Nous ne sommes pas instruits, me dit-il, mais nous ne sommes pas aussi bêtes qu'ils le croient. D'ailleurs, eux aussi, allez, sont des ignorants malgré leurs belles phrases. Leurs sornettes ne valent pas nos vieilles idées. Quand je vois des jeunes gars, venus on ne sait d'où, se moquer de la religion, je me tiens à quatre pour ne pas leur flanquer ma main sur la face. Ça fait pitié, vraiment. Vous savez que l'exemple vient de haut. La forme diffère seulement, et encore. C'est bien triste, mademoiselle, mais cela ne durera pas toujours. « Espérons-le, » dis-je en lui tendant la main. « Si vous le voulez bien, nous causerons de nouveau ensemble quand je reviendrai sur la jetée. »« Voilà un ami qui n'est pas banal, » me disais-je en m'en allant. Ma pensée lui-même s'harmonise avec cette ravissante soirée. La lumière s'était encore atténuée lorsqu'au pied du phare, je m'approchai d'André. « J'ai attendu longtemps, » me dit-il, « et ma mère n'est pas avec vous ?» Elle a craint que les vagues ne passent par-dessus la jetée, dis-je en montrant la mer unie comme un miroir. Vous a-t-elle parlé? Parlé? Parlé de quoi? Bien, je vois qu'elle n'a rien dit. On nous a adressé pour vous une demande en mariage. Monsieur Barra. Je n'en suis pas étonné, j'avais remarqué sa sympathie. Comment le trouvez-vous? Fort bien. Vous m'en voyez très heureux, Jacqueline. Sa fortune n'égale pas la vôtre, mais c'est un homme distingué, un travailleur, considération capitale, à mon sens, pour le bonheur futur d'une femme. C'est également mon avis. Monsieur Barra me paraît posséder toutes les qualités qui peuvent plaire à une jeune fille. Alors la question sera promptement réglée. Quelle question? Mais votre mariage avec lui, Jacqueline? Il y a une distance énorme entre le mariage et l'opinion favorable qu'on peut avoir sur un homme. « Quel est cet enfantillage ?» demanda André en montant sur ses échasses de tuteur. « Vous appréciez M. Barra, et d'un autre côté, vous devez savoir que je ne vous le proposerai pas si je n'étais pas sûr de lui. Il est inutile d'insister, je ne veux pas me marier, du moins à présent. » Ma décision, évidemment sans appel, le stupéfia. « Vous êtes vraiment singulière, Jacqueline. »« Pourquoi, mon cher cousin? Mes idées, j'appuyais sur le mot, sont arrêtées au point de vue mariage. Et quand une demande s'harmonisera avec elle, je consentirai. Peut-être sera-ce long, car je suis difficile. » Vos idées, répéta-t-il, puis-je les connaître ? Non, vous ne les comprendriez pas. Sur quoi motivez-vous cette observation ? Me demanda-t-il fort piqué. Je me flatte d'avoir la compréhension assez étendue. Vous vous flattez en vain, répondis-je avec une impertinence qui m'échappa sur le moment, car mes yeux charmés erraient sur la mer, dont le dernier éclat lumineux avait disparu pour faire place par une transition imperceptible aux rayons blancs de la lune. C'était l'enchantement même de la sérénité, et cependant une impression pénible dont je n'ai pu découvrir la cause, contrastée avec le calme extérieur qui nous enveloppait. Je me sentais vaguement irrité alors qu'une demande en mariage émeut ou flatte ordinairement. Si Madame d'Arlancey m'en avait parlé, mon impression eût sans doute été différente, car André a une façon de dire qui m'agace. Je le regardai et son mécontentement visible me rappela ma réponse impertinente. Soudain, sans savoir pourquoi, je résolus de lui plaire, c'est-à-dire d'essayer. « Je crois votre compréhension étendue, surtout pour les choses techniques, » lui dis-je très doucement. « Mais peut-être ne pénétrez-vous pas assez dans la nature des autres, dans la nature de la femme. » André est loyal autant qu'intelligent, et mon observation, faite avec toute la suavité possible, le frappa sans le blesser. « Il est possible que vous ayez raison, » répondit-il après un instant de réflexion. « Je suis un travailleur plutôt qu'un observateur. » Mais aussitôt, craignant d'effacer par ce demi-aveu son prestige d'éducateur, il s'empressa de céder à son orgueil. « Et cependant, ajouta-t-il, je vois plus clair que vous ne le supposez. » « L'avenir le dira. Pour moi, je ne crois pas que les mathématiques apprennent à manier les hommes, ou plutôt les jeunes filles. » C'était pousser un peu loin la hardiesse, bien que je ne fusse pas retombé dans mon état d'esprit habituel quand je discute avec lui et qu'il veut m'imposer sa prétendue supériorité masculine. C'est avec douceur que ma franchise s'exprimait. Sans se fâcher, il me répondit « Nous sommes loin du sujet, ce me semble. Croyez que je connais assez les jeunes filles pour savoir qu'elles ont généralement le désir de se marier. » « Oui, mais à leur heure. » « Et quand viendra cette heure, pour vous ?»« Je ne puis répondre. »« Vous ferez comme vous voudrez, Jacqueline. Mon devoir n'est pas de peser sur vos résolutions. »« Je vous sais grand gré de vous inquiéter de mon avenir, » dis-je avec une sorte d'émotion. « Mais je suis heureuse et n'en demande pas plus à la vie jusqu'à nouvel ordre. » Ce demi-accord entre nous, qui s'alliait à la sérénité de la soirée, dissipa mon malaise intime et nous revînmes auprès de Madame d'Arlancey en causant presque amicalement. « Eh bien, » dit-elle, « eh bien, c'est non. » « La raison, elle est simple, je veux jouir encore du bonheur que vous me donnez. » « Tu as l'air enchantée, voilà bien les jeunes filles, elles sont ravies d'avoir le plaisir de refuser une demande en mariage. » Et c'est ainsi que l'on raconte l'histoire.